Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
De Chavannes cherche copains. Mais c'est quoi ce truc?
Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, des hommes politiques. Attendez, on est allé jusqu'au président de la République, vous voyez. Des blogueuses, des blogueurs, des jeunes, des moins jeunes. Et puis des TikTokers. Alors, des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Oui. De Chavannes cherche copains. Des copains. De Chavannes cherche copains. A tout de suite, les amis. Bonjour tout le monde. Je suis très content aujourd'hui parce que je reçois quelqu'un que je ne connais pas, mais que j'avais envie de rencontrer. Car vous êtes à l'initiative d'un bouquin dont un peu tout le monde parle, enfin en tout cas beaucoup de gens, Sarah Baruch. En campagne, je ne sais pas, et pourtant ça pourrait. En tout cas dans les villes, oui, ça s'appelle 125 et des milliers. Je pense que déjà le nombre de 125 devrait déjà être augmenté, malheureusement, je crois.
Ah ben, le chiffre est faux, oui, ouais. Effectivement. J'ai voulu faire un pied de nez aux statistiques, puisque ce livre parle des violences faites aux femmes et des femmes victimes de féminicides. Et on estime qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi en France. Mmh. Ça veut dire en gros 125,1. Donc j'ai arrondi à 125 par an. Sauf que ce chiffre est faux, puisque déjà on ne compte pas les victimes de suicides forcés, qui sont reconnues par la loi depuis 2020 comme des féminicides.
Ah, okay.
C'est-à-dire que les femmes qui ont tellement plus d'espoir par rapport à la violence qu'elles subissent,
qu'elles se tuent.
Voilà, elles pensent que la société ne peut plus les aider, et elles se tuent.
Est-ce qu'elles ont déjà, celles-là, essayé à se faire par la société?
Oui, oui, la plupart ont déjà déposé plainte, etc. Et elles finissent par se tuer. Si on les comptait, ce serait une femme qui meurt tous les jours. On ne compte pas non plus les victimes collatérales. On ne compte pas, par exemple, si la femme se fait assassiner chez ses parents et que les parents se font tuer, ils ne font pas partie des victimes de féminicide. Donc tout ça, ce n'est pas compté dans les statistiques officielles. Donc effectivement, on est très en deçà.
Donc en fait, le chiffre officiel, qui est déjà monstrueux, de dire c'est une femme tous les 2 jours ou 3 jours...
Oui, c'est faux. C'est une femme tous les jours.
Ok.
Minimum.
Ça va être difficile de déconner, mais néanmoins, on va essayer de prendre le ton que vous méritez d'avoir, parce que vous avez l'œil vraiment rieur. Vous avez une aventure très douloureuse, très violente et très récente, puisque 3 ans, c'était il n'y a pas longtemps. Mmh. Vous pouvez nous raconter cette histoire, parce que c'est évidemment ce que vous avez vécu qui a donné lieu à la création de ce bouquin, où participent donc... Combien d'écrivains en...
125,
voilà. Enfin, des écrivains plus ou moins.
Il y a des personnalités. Ce sont des écrivaines, des journalistes, des réalisatrices, des comédiennes. En fait, tout cela, je me suis enfuie, moi, avec ma fille, qui avait 16 mois, dans la nuit du 5 au 6 juin 2020.
Pendant qu'il dormait ?
Non. Pendant que ça a été la dispute de trop, où j'ai eu très peur, et surtout, il y a eu une étape supérieure qui a été franchie dans la violence. Et là, je me suis dit que le coup d'après, en fait... ce serait le coup de trop.
Le dernier.
Donc, je me suis...
Vous avez eu peur de ça ?
Oui, j'ai eu peur de ça.
Que ce soit le dernier coup ?
Oui. Et donc, je me suis réfugiée dans la chambre de ma fille. J'ai bloqué la porte avec mes jambes et j'ai appelé ma famille au secours pour qu'ils viennent me chercher. Pas la police, parce que l'année d'avant, on nous avait signalé. Et la police, face à ce qui se passait chez moi, m'avait dit qu'en gros, je ne devais pas être une bonne mère pour exposer mon enfant
non,
à ça.
Non, mais ça, j'arrive pas à ça, moi. Je vais vous dire, le drame, c'est que beaucoup, beaucoup de témoignages que j'ai pu entendre, ou lire, ou rencontrer, ont tous à peu près ce même discours sur la police qui dit « Oh, écoutez, nous, on ne peut rien faire. Enfin, » Et en plus, malheureusement, on a des exemples affreux où, dans les journaux, voilà, il est avéré qu'après, demain courante...
Il y a eu des plaintes et des lettres au procureur. Enfin, moi, dans les...
Mais comment ça se fait, à votre avis? C'est quoi, l'histoire? Après, on revient, si vous voulez bien, à votre aventure. Mais moi, je suis flic, je suis derrière mon bureau.
Alors...
Je vois une femme comme vous qui arrive en état de choc, fatiguée, stressé, en pleurs ou pas, qui a peur. C'est pas possible si je suis un homme de dire.
À ce moment-là, surtout, ça avait été un signalement extérieur parce que j'avais eu la main cassée avec un bébé de 3 mois et demi dans les bras.
Donc c'est quelqu'un d'autre qui vous a signalé.
Voilà,
parce que vous aviez la trouille de le faire.
Ouais. Et donc je suis arrivée et là, on m'a menacé de déclencher une enquête sociale et donc de m'enlever mon bébé de 3 mois et demi et de le placer dans un endroit que j'ignorerais pendant minimum 1 mois. Le temps de décider si oui ou non j'étais une mère suffisamment protectrice. Donc évidemment, j'ai flippé et j'ai menti. En tout cas, j'ai pas dit toute la vérité.
Donc vous êtes tombée d'un escalier, genre.
J'ai fait du yoga.
D'accord.
Ça correspond plus au personnage. Tout ça pour dire que vous dites...
Vous faites du yoga ?
Ouais, je fais vraiment du yoga. Bah, autant choisir un bon ami.
Oui.
Et je pense que vous dites exactement ce qui pose problème, c'est que c'est pas la police, c'est des policiers. Et qu'encore une fois, la police, c'est une entité, mais le problème, c'est qu'en bout de chaîne, on est toujours face à une personne.
Mais c'est con que ce soit toujours pas la bonne, alors.
L'année d'après, ça a été la bonne.
Ah, OK.
Et d'ailleurs, il y a un chapitre entier que je consacre à la police dans le livre, parce que je crois que pour obtenir la paix, et moi, aujourd'hui, on dit c'est mon combat. Non, moi, je suis pas dans un combat. J'ai été dans un combat pendant 10 ans. Aujourd'hui, je cherche à apaiser et à comprendre. Parce que pour apaiser, il faut comprendre.
Comprendre ce qui vous est arrivé
ou ce qu'il a fait. Comprendre l'ensemble, en fait. Mmh. Je pense que les hommes ne sont pas le mal dans la société.
Je vous le confirme.
Voilà. Non, mais sincèrement, je pense que...
Néanmoins, quand ils y vont, quoi. C'est ça,
oui, vraiment. Oui, mais je pense que lui-même, c'est ce que je dis dans le livre, c'est le méchant de mon histoire, mais c'est pas un méchant. Il est aussi le fruit
d'une histoire
douloureuse, d'une méchante, d'un méchant, etc.
C'est con, hein, c'est de la psychologie à 2 balles.
Mais c'est pas à 2 balles.
Les enfants battus battent leurs enfants,
exactement.
En gros.
Exactement. Bah, c'est la vérité. 30% des enfants qui ont assisté à de la violence deviennent victimes, 30% deviennent bourreaux, et même pas un tiers mènent la vie qu'ils auraient dû mener sans tout ça.
Donc tout le monde est bousillé.
Il y en a beaucoup, en tout cas si on n'agit pas, qui risquent de l'être, d'avoir des difficultés supplémentaires. Après, eux c'est ça, d'autres ce sera autre chose, la vie c'est pas tellement ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait.
Mais ça fait 50 ans qu'on dit ça. Je veux dire, ça fait 50 ans qu'on dit les enfants battus battent leurs enfants. Elle est où l'évolution, en gros?
Parce que j'étais pas née il y a 50 ans. Hein.
Mais non, mon chou, je parle pas pour vous, je parle pour moi. Je vous remercie. Moi, j'étais née. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu dire ça, quoi. C'est-à-dire que les chats font des chats.
Mais je pense que déjà, on a une mauvaise définition des choses. Par exemple, quand on parle de violence et qu'on représente les femmes victimes de violence, on parle systématiquement des coups. D'ailleurs, on dit encore « morte sous les coups de son conjoint ».
Oui, il y a la violence psychologique aussi.
Dans plus de 60% des cas des femmes qui meurent de féminicide, elles sont mortes la première fois qu'elles ont reçu une violence physique. C'est-à-dire que le seul point commun entre toutes les victimes de féminicide, c'est la violence psychologique, c'est l'emprise, c'est la coercition, c'est la menace, etc.
Et qui toutes n'arrivent pas jusqu'à la mort.
Toutes n'arrivent pas jusqu'à la mort, mais en tout cas, parmi celles qui arrivent jusqu'à la mort, souvent, elles sont mortes, dans plus de 60% des cas, la première fois qu'elles ont reçu une violence physique. Donc, ce n'est pas le critère. La façon qu'on a de représenter les femmes victimes de violences, elle est fausse.
Oui, mais est-ce que ça ne correspond pas aussi peut-être à l'idée de « je te préviens, je m'en vais » ?
Ah, mais il y a plein de choses. Tout cela, ça, c'est de la menace. Tout ça, c'est une
culpabilisation. Après des années de harcèlement physique, de pression, d'emprise, on va en parler, parce que, mon Dieu, c'est souvent au moment où la femme décide de partir.
Alors, tout à fait.
Et bêtement le dit, ou sous forme de menace, ou sous forme de « je m'affirme, je t'emmerde et je te quitte ». Et tout d'un coup, ça part
alors,
en cacahuète.
Là, vous avez tout à fait raison, c'est 100% des cas. La femme se fait tuer systématiquement.
Si elle dit qu'elle le quitte.
En fait, quand ça devient officiel, qu'elle n'est plus l'objet de possession de celui qui croyait la posséder. Donc c'est quand elle part, c'est quand les papiers du divorce arrivent au nouveau domicile de l'ex-conjoint et que du coup ça devient officiel. C'est quand elle a une nouvelle relation, c'est quand elle tombe enceinte d'un nouveau conjoint. En fait, c'est quand pour l'homme,
elle lui appartient plus.
Elle ne lui appartient
pas. Parce qu'il y a un sentiment de possession, on est d'accord.
Exactement. La violence est possible quand il y a une relation asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un dominant, un dominé. Et généralement, c'est l'homme, le dominant.
Et les femmes qui acceptent d'être dominées et qui sont sous emprise, à votre avis, c'est quoi? Il y a d'abord de l'amour?
Avant l'emprise, il y a l'amour, de toute façon. Il y a un attachement qui se fait parce qu'encore une fois, les bourreaux ne sont pas des bourreaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ce qui et souvent, ils demandent pardon.
Ils demandent
juste
pardon
après.
Et ils sont sincèrement désolés. Et c'est très désarmant de voir que quelqu'un s'en veut à ce point de vous avoir fait mal.
Mais dans ces cas-là, est-ce qu'on n'a pas envie de lui dire, écoute, si à ce point tu t'en veux, c'est que t'es pas là quand tu le fais ou t'es quelqu'un d'autre, il faut que tu consultes.
Bah, on est bien d'accord sur le fait que moi, c'est la conclusion que je tire, une des conclusions que je tire, je pense que si on médiatisait davantage les problèmes psychiatriques en France, moins... Non, mais parce que consulter, on en reste encore à dire que ce sont les fous qui consultent.
C'est-à-dire non,
France,
non,
on
mais
va
je
dire
peux... oui, oui, je sais.
On passe pour un tarif.
Je suis très militant, moi. Moi, je dis que même, je vais vous dire, je pense que chacun devrait faire une fois, à un moment donné, pour voir comment ça va.
Tout à fait. Et pour le coup, ça s'est appliqué dans mon histoire. Aujourd'hui, le père de ma fille est traité. Ce n'est plus la même personne. Il n'est plus violent. Et donc, je pense que...
Allez, vous avez donc renoué des contacts.
Oui, oui, on a renoué des contacts parce qu'il y a un enfant au milieu. C'est-à-dire que c'est très facile de dire « Ah oui, bah, c'est bon, vous vous éloignez, l'enfant ne voit plus jamais son père. »
Non, c'était pas ma volonté, je posais une question.
Non, mais je dis pas que c'est vous qui me dites ça, mais c'est ce qu'on me renvoie systématiquement. Encore une culpabilisation des décisions que je prends, etc. Bref, tout ça pour vous dire...
Parce que vous sentez que les femmes qui vivent ces catastrophes sont culpabilisées par la société.
Elles sont culpabilisées par la société dans chacun de leurs choix. Et puis surtout, il faut être des bonnes victimes, entre guillemets. Moi, quand je dis que je ne veux pas être considérée comme une victime, que j'ai été victime de telle date à telle date, et qu'aujourd'hui, j'ai le droit de rigoler, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'avoir des projets, et que je ne suis pas une victime, parce qu'en plus, ce dont on n'a pas conscience, c'est qu'on n'est pas une victime en l'air. Une victime, elle est forcément attachée à un bourreau. Il n'y a pas de victime sans bourreau.
Le tango se danse à deux.
C'est un tango qui se danse à deux. Donc, ça veut dire que quand on me dit que je suis victime, ça veut dire qu'on me lie encore à la personne que je suis.
Ah, vous parlez d'aujourd'hui ?
Ben oui.
Ah non.
Moi, quand on me dit, je vous présente Sarah, victime de machin. Ben non, je l'ai été, je ne le suis plus.
Ça a commencé
quand ? Ça a commencé quasiment dès le départ de cette relation où il y a eu un choc, en fait.
Donc, vous vous mariez ?
On n'a jamais été mariés, on a commencé une relation en 2009 et j'ai fui.
Il avait à peu près à votre âge, plus vieux ?
Ouais, il avait 3 ans de plus que moi.
Ok.
Et en fait, j'ai cherché à comprendre ce qui se passait dans l'entreprise.
Le début de ces réactions qui sont zarbies, c'est au bout de combien de temps à lui ?
C'est quasiment dès le départ.
Ah.
C'est quasiment dès le départ où je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Mais comme moi, je me remettais énormément en question.
Bah oui.
Parce que j'étais une... Déjà, j'avais une faille narcissique. Et la violence, elle est possible que chez les personnes qui ont un problème d'estime d'elles-mêmes. Quand je dis faille narcissique, ça ne veut pas dire que je suis...
Mais vous voulez dire que vous avez été visée, entre guillemets ?
Je
choisie ?
Je pense qu'il y a eu un écho possible à son comportement dans la personne que j'étais. Ça ne veut pas dire qu'il m'a traquée et qu'il a repéré en moi une proie potentielle, je crois. Ce n'était pas de la perversion.
C'est le fruit du hasard.
Mais c'est un peu le fruit du hasard et il y a eu un écho. Mmh. Voilà. Il y a eu un possible. Ah, franchement, vous déconnez totalement.
C'est votre téléphone. Ça, c'est fou, hein. C'est fou, ces gens qui ont été des victimes et qui essaient de culpabiliser l'autre.
Parce que vous êtes un homme.
Bien sûr.
Bien évidemment.
Non, c'était mon téléphone.
Et donc, voilà. Donc, pour en revenir justement à ce livre, moi, j'ai grandi...
Excusez-moi, je vous interromps. Dont je rappelle que cette écriture, en tout cas, que tous les bénéfices vont à une association ou plusieurs.
Une seule qui s'appelle l'UNFF, qui est l'Union Nationale des Familles de Féminicides,
okay.
Qui accompagne justement les familles dans l'après.
Parce que les victimes collatérales, il y en a un paquet.
Il y en a un paquet qui n'ont toujours pas d'ailleurs le statut de victime. Et finalement, les familles, quand elles récupèrent des enfants, pour reprendre leurs mots, elles m'ont dit c'est comme si on récupérait des paquets de linge sale. C'est-à-dire on nous les donne avec la tenue du jour. Où ils ont assisté au meurtre de leur maman, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de doudou, il n'y a pas de cahier, il y a tout à racheter, ils n'ont pas de statut, il n'y a pas d'aide.
Et il y a un truc de ouf, c'est que tant que le jugement n'a pas été prononcé, le père, parce que dans 100% des cas, ce sont des hommes, d'accord ?
Quasiment, ouais.
Ouais, il n'y a pas de dominicide.
Par exemple, je raconte l'histoire d'un couple lesbien, mais finalement, où ça fonctionnait avec un rapport dominant-dominé.
Mais c'est féminicide quand même.
Voilà, c'est un féminicide. Ouais. Non, mais bien sûr, mais c'est un sujet un peu tabou aujourd'hui.
Mais c'est intéressant de voir que dans l'homosexualité, ça peut aussi exister, oui, d'accord. cette même perversion, parce qu'en fait, c'en est une.
C'est une relation asymétrique.
Ah, c'est ce que vous appelez, c'est ça. Ah oui, d'accord. Moi, je vais un peu plus vite en orthographe.
Pardon. Mais...
Non. C'est moi qui suis un peu. C'est moi qui suis brutal. Non, pas du tout. Vous avez raison. C'est le terme approprié. Je revenais sur ce que je voulais dire. Je crois savoir que tant que l'homme n'est pas jugé, il a toujours l'autorité parentale.
Oui, il n'y a pas de déchéance de l'autorité parentale automatique. Et parfois, ça continue même après.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer d'école sans son avis. Les grands-parents peuvent
pas. Aller voir un psy. Sans l'accord du père.
Si, moi, donc le père peut dire non.
Oui, tout à fait.
Et le môme n'y va pas.
Moi, j'ai un grand-père qui a récupéré ses deux petits-fils qui étaient totalement traumatisés d'avoir assisté à ce qu'ils avaient.
Parce que c'est toujours les grands-parents, il faut le dire.
Souvent. C'est régulièrement les grands-parents, les oncles et tantes, ouais. etc. Mais il n'y a même pas d'évaluation des grands-parents. C'est ça aussi, c'est catastrophique. Quand on en parle avec le NFF, elle me dit, vous savez, parfois, une grand-mère qui est totalement choquée, elle n'est pas en mesure de s'occuper d'enfants bas âge.
C'est les grands-parents maternels.
Oui, généralement, c'est
ouais.
ça. Quand il y en a.
Oui, c'est ça. Et quand il n'y en a pas ?
Eh ben, quand il n'y en a pas, c'est compliqué. Ça peut être les oncles et tantes, mais les enfants sont généralement d'abord placés en foyer, parfois très loin. Enfin, voilà, il y a des... Ce que vivent les enfants, c'est infernal, en fait.
Vous êtes, c'est un exemple à donner aux autres femmes. Vous en rencontrez, j'imagine ? Vous
ouais,
formez un peu,
énormément.
Etc.
Ouais. Là, j'ai commencé...
Parce que vous vivez, quoi, en fait. Voilà. Vous vivez bien, vous êtes bien. Ça se voit dans vos yeux.
Ouais, et... ouais. Justement, ce qui a fait que ce qui a initié ce livre, c'est quand je me suis retrouvée du coup à vivre chez mes parents, dans ma chambre d'ado.
Avec la petite.
Fille, qui marchait pas. Enfin, c'était une période extrêmement étrange.
Mais dans ces cas-là, il n'y a pas cette merde de vous dire, quelqu'un vous dit, attention, finalement, on va peut-être pas vous la laisser, on va la reprendre un petit bout de temps. Vous m'avez raconté un truc tout à l'heure qui ressemble à ça.
Oui, en fait, la deuxième fois, du coup, quand je suis partie en pleine nuit, j'ai eu peur qu'on m'accuse d'avoir kidnappé mon enfant, donc je ne savais pas quoi faire. Voilà, ça arrive à plein de gens.
Bien sûr.
On est parti entre 2 et 3 heures du matin. Je suis arrivée chez mes parents, le temps de la coucher, qui ne voulait pas dormir, etc. Et à 5 heures, j'ai un espèce de flash où je me dis, mais en fait, ça va me retomber dessus. On va m'accuser d'avoir kidnappé.
En fait, il fallait aller directement chez le flic en disant, je pars avec mon enfant.
Appeler des avocats, très bizarrement, il n'y a personne qui m'a répondu à 5 heures du matin. Donc j'ai cherché partout sur Internet et je suis tombée sur le chat du gouvernement. Où là, j'ai dit, je suis dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai très peur.
Et là, il y avait quelqu'un. Donc.
Et là, il y a quelqu'un qui m'a répondu. Ils m'ont posé des questions. Et alors là, je me suis dit, je vais pas mentir, je vais tout dire. Comme ça, on pourra pas m'accuser d'avoir minimisé. Donc, ils m'ont dit, écoutez, c'est bon, c'est enregistré. Allez dès demain matin, dans le commissariat le plus proche de chez vous, déposer une main courante pour signaler le départ du domicile. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai commencé à déposer la main courante. Et là, il y a une haut-gradée qui est descendue, qui m'a dit, bonjour Sarah. La meuf, j'avais jamais vue. Et elle tenait des feuilles comme ça, elle me dit, j'ai dans la main le chat que vous avez eu avec le gouvernement, c'est très grave ce qui se passe chez vous, donc je vous préviens, c'est pas une main courante, c'est une plainte et c'est nous qui décidons. Donc prévenez, on en a pour 3 heures au moins, on a des questions à vous poser. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc là, au contraire, la police de mon côté.
Super.
Finalement, j'ai eu des pressions de mon ancienne belle-famille pour retirer ma plainte, je leur ai dit, je ne peux pas en fait, c'est même pas moi. Qui est décidé ça. Il y a une enquête pénale.
Mais je crois que maintenant, il y a même une nouvelle loi où les médecins peuvent prévenir.
Alors, ça aussi.
Où les médecins peuvent prévenir la police à condition qu'ils préviennent leurs patients, c'est ça.
C'est un protocole qui vient d'être lancé, qui n'est pas encore systématique ni officiel. Mais effectivement, on se rend compte que quand les médecins voient et constatent des choses, le temps qu'ils arrivent à convaincre une femme d'aller porter plainte, en fait, il faut qu'elle ressorte de l'hôpital et qu'elle aille au commissariat, ce qu'elle ne fera jamais. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle puisse porter plainte directement à l'hôpital.
Il
faut qu'elle soit d'accord et que le médecin soit habilité à le faire. Mais du coup, quand je me suis retrouvée chez mes parents, je ne savais pas si j'étais folle ou un cas désespéré.
Sarah, je peux vous demander comment vous avez eu l'idée de ce livre ? Parce qu'en fait, c'est un boulot de malade, c'est un boulot de titan. Il a fallu que vous trouviez... 625 auteurs, écrivains ou pas.
Les auteurs, ça a été la partie facile. Parce qu'en fait, d'abord, donc, je vais reprendre, si vous me permettez, dans l'ordre.
Oui, parce que je suis brouillon. Je vous remercie de le faire remarquer.
Pas du tout l'objectif. Je vous trouve formidable, mais j'adore recadrer.
mais j'ai besoin d'être cadré en plus. Et je vous trouve formidable aussi, c'est très bien. Je pense qu'on va, arrêter après cette interview, parce que voilà, j'ai rencontré quelqu'un, c'est parfait. C'était le but, hein. Ça s'appelle De Savage, cherche copain. On n'avait pas marché, on n'avait pas marqué copine.
Bien que ça arrive.
Voilà.
Bon, alors, j'arrive chez mes parents, avec la petite, et là, je me dis, mais est-ce que je suis folle? Parce que moi, finalement, j'ai eu un papa médecin, une mère instite, j'ai toujours bien gagné ma vie, j'ai fait 10 ans d'études.
Vous faisiez quoi ?
J'ai fait une grande école de commerce, j'ai travaillé.
Et à cette époque-là, vous faisiez quoi ?
J'avais ma boîte et j'étais déjà écrivaine.
Ok.
Voilà, j'avais déjà publié plusieurs romans chez Albert Michel, enfin, pas des petites maisons, quoi. Donc, j'ai jamais eu ce problème, en fait, de...
matériel.
Dépendance. Voilà.
Parce qu'il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, mais du coup, je me disais, mais est-ce que vraiment je suis une irrécupérable d'en être à ce niveau-là, de mauvais téléfilms où je suis convoquée un jour par l'assistante sociale, un jour par machin, enfin, c'était d'un glauque pas possible. Et je me suis dit, mais finalement, qui c'est les femmes victimes de violences ? Qui sont celles qui meurent de ça ? Et je me suis rendu compte que la seule chose que je trouvais sur Internet, c'était les articles de faits divers, tous assez glauques, et qui finalement racontent plus qui était le bourreau que qui était la victime, et les décomptes. C'est-à-dire qu'on en est à 43 féminicides, 45, 62, etc. Et je me suis dit, mais c'est fou, j'arrive pas à savoir si je suis toute seule ou pas. Donc c'était très égocentrique à la base, comme projet, je voulais juste savoir si moi, j'étais folle ou pas, s'il y en avait des comme moi. Et là, je me suis dit...
S'il y en avait des comme vous, quoi ?
C'est-à-dire des filles qui avaient eu toutes les chances à la base et qui avaient merdé.
D'accord. Parce que vous pensez avoir merdé ?
Oh bah à ce moment-là, c'est ce que je pensais.
Mmh.
Après, ça c'est... Je le garde dans l'ambiance ouatée de ma psychanalyste.
Bien sûr, et pas de problème.
Voilà. Oui, à ce moment-là, c'était ça. Je cherchais à savoir si j'étais vraiment... si j'avais raison d'avoir autant honte d'en être là où
Mais je crois que malheureusement, c'est le cas de beaucoup de femmes.
Eh bien, justement.
Y compris dans d'autres affaires qui ne sont pas la mort, mais par exemple les viols, où il y a une
Exactement.
Culpabilité monstrueuse.
Ah oui, tout à fait. Mmh. Et puis c'est généralement un effet de ricochet, c'est-à-dire que toutes les violences auxquelles les femmes sont confrontées continuent de creuser cette fameuse faille narcissique, qui est une faille de l'estime de soi, et qui permet de laisser place à de la violence. Et je pourrais parler un peu de mon parcours de tout ça.
Donc là, je voudrais bien avoir une phrase bien précise et nette. Pardon, là-dessus. C'est qu'une femme qui a une trop légère estime d'elle-même, on va dire, ou en tout cas pas juste, sûrement, est une victime potentielle pour un homme qui aime avoir une emprise.
Tout à fait.
J'ai résumé là.
Alors, je ne sais pas si l'homme aime avoir une emprise, ou en tout cas, quelqu'un qui
l'exerce
comme ça, qui l'exerce.
Ouais. Il y a peu de chances que ça lui pose un problème énorme.
Alors oui, mais de là à dire qu'il aime, je ne suis pas sûre qu'ils en aient tous conscience.
Mmh, mmh.
Voilà. Parce qu'il y a justement des bipolarités, des psychoses, des vrais problèmes psychiatriques, des addictions qui font que je ne sais pas si c'est une question d'aimer ou pas.
Il y avait un problème d'addiction avec lui ?
Il y avait un problème d'addiction et un problème de psychose.
Ok.
Ouais, tout à fait.
Les deux ensemble, c'est pas top.
Les deux ensemble, ça faisait pas très bon ménage. Non. Mais tout ça pour dire que, oui, tout à fait, la violence ne peut s'engouffrer que dans des problèmes d'estime de soi.
Et des femmes, c'est très important, ça.
Des femmes qui cherchent à être aimées, des femmes qui cherchent à être valorisées. Moi, je sais que j'avais une liste de 10 000 interdits par jour complètement absurde, mais j'avais l'impression, justement, j'avais de l'importance. Que quelqu'un s'intéressait enfin à moi parce qu'il me fliquait.
C'était quoi la liste des interdits ?
Ah ben,
qui avait fait cette liste ?
Lui.
Ah ! Ah, pardon.
Par exemple, si je nettoyais pas le savon, c'était un problème. Si je nettoyais pas l'intérieur du lave-vaisselle après qu'il ait tourné, c'était un problème. Si je checkais pas chaque couvert pour pas qu'il y ait une trace de buée dessus, c'était un problème. Si j'allais pas dans le boucher qui était à 2 minutes 30 de la maison et chronomètre en main, c'était un problème. Ce genre de
C'est fait. De la torture psychologique, c'est... enfin, je veux dire, c'est clair.
Tout à fait. Ah, c'est de la torture psychologique. Ouais. Non, c'est... Eh oh, j'ai pas vécu la
ouais,
même
ouais,
temps,
ouais,
oh.
ouais.
Mais tout okay. à fait. Mais du coup, au début, je me disais, c'est que je compte vraiment.
Mais quand vous étiez jeune, quel rapport vous aviez avec les petits copains ?
Ah effectivement, j'ai pas eu un parcours de femme finger in the nose,
okay.
comme on dit.
Okay.
Je pense que j'aurais pas été confrontée à de grands chocs dans ma vie. J'aurais pas été cette fille abîmée et donc sujette à accepter ce que j'ai accepté. Je ne sais pas si c'est encourageant ou décourageant, mais en tout cas, ce dont je suis
C'est encourageant d'entendre ça, et il faut que tout le monde l'entende, parce que c'est très intéressant d'entendre ça, y compris pour des femmes,
tout
ou
fait.
Des jeunes femmes.
Ouais.
Parce que, a priori, on se dit souvent qu'il y a un gros pourcentage de jeunes femmes qui ont eu des enfances bousculées, on va dire. Ça crée ce genre de problème après, quoi.
Tout à fait.
Avec cette recherche d'amour absolu et perdu, et qui fait que tout d'un coup, on est...
Ah mais tout à fait, enfin, pardon pour mettre l'ambiance, hein, mais j'aurais pas vécu ce que j'avais vécu avant lui, Je pense pas que j'aurais accepté ce que j'ai accepté. Mmh. Voilà. Et du coup, mais c'est positif dans la mesure où regagner une estime de soi, c'est possible. Moi déjà, ça
bien sûr que c'est possible.
Mais le sport m'a beaucoup aidé. Parce que à la fin de tout ça, je me disais, en gros, il faut que je sois capable de fuir. Il faut que mon corps soit fort pour que je sois forte. Et j'y croyais à moitié, puis finalement, ça s'est avéré. Je crois véritablement, alors parce que le sport a d'autres vertus, mais c'est vrai avec la méditation, c'est vrai avec le fait de se faire suivre et d'accepter une médication. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai été sous antidépresseur et que ça m'a sauvée.
Bien sûr.
Mais parce qu'à un moment donné, je ne voyais pas comment m'en sortir et je me suis dit, bon, bah, je vais me fabriquer une maladie, puis je vais mourir, et puis on n'entendra plus parler de moi, ce sera réglé. Et puis non, en fait. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est, encore une fois, c'est pas ce qui
mais parce
arrive,
que vous avez garçon, ce que tout le monde n'a pas forcément.
Tout à fait. Donc, tout à fait. Mais du coup, je suis arrivée et je me suis dit, mais en fait, il faut que je sache, moi, qui sont les femmes qui meurent de la violence de leur compagnon ou ex-compagnon. Et c'est là que je me suis dit, bah, s'il y en a 125 en moyenne par an, je vais retrouver toute seule 125 familles et leur demander qu'elles me racontent qui était leur fille, leur sœur, leur mère.
Pas le bourreau.
Pas le bourreau, surtout pas. Okay. C'était pas le but. Okay. Moi, je voulais désinvisibiliser les victimes. Parce qu'aujourd'hui, on occulte complètement qui elles étaient. Donc, c'est déjà une torture pour les familles. Mais c'est aussi un problème de prévention. Parce que du coup, on véhicule des idées fausses sur les victimes. Sur les... Alors, ça a été un énorme travail hein, de retrouver 125 familles. Parce qu'entre le moment où il y a le prénom d'une victime dans un article et celui où on retrouve le 06 de la maman, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes.
Toute seule ?
Toute seule.
Ah ouais.
J'ai voulu faire appel à deux détectives privés. Les deux m'ont dit au départ, alors je vous préviens, c'est 1 000 euros la femme.
Super.
Super. Et après, on me dit, et alors pour vous aider, j'ai besoin de la date de naissance et du nom de famille. Et je ne les ai jamais. Ils m'ont dit, ah bah c'est pas possible, vous n'y arriverez jamais.
Ouais, des bons collaborateurs.
Des bons collaborateurs. Ouais. Ça n'existe pas, les fichiers avec les coordonnées des familles. Enfin, moi, je ne suis pas dans les services généraux, dans les renseignements généraux. Je n'ai pas ces informations-là. Donc, j'ai regardé tous les faire-part de décès. J'ai contacté les pompes funèbres, les avocats, les églises.
Ça vous a demandé combien de temps ?
2 ans et demi.
OK.
Et en fait, j'ai enregistré en audio toutes mes interviews des familles. Et c'est ça que j'ai envoyé aux personnalités pour qu'elles soient plongées dans l'univers d'une famille en deuil. Et qu'elles ressentent ce que moi j'avais ressenti en interrogeant les familles. Alors, c'était pas des interviews totalement plombantes, hein, parce qu'elles me racontaient ce qu'elles ont jamais l'occasion de dire. C'était quoi le rêve d'enfant de cette fille? C'était quoi son projet dans la vie? C'était quoi la musique qu'elle écoutait absolument?
Et toutes avaient eu des soucis d'enfance?
Elles avaient eu toutes une idéalisation. Alors, on m'a pas raconté à chaque fois ça, mais
une idéalisation.
Commun, une idéalisation de l'amour. Mmh. Et de cette envie d'être aimée. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà.
Très, ben ça l'est.
Et du coup, ce sont ces audios que j'ai confiés aux 125 personnalités en leur disant, bah, vous écrivez sur une forme libre, il faut juste que ça fasse 2 pages et que vous me racontiez qui elle était et pas comment elle est morte.
Mais on peut en citer quelques-unes.
Mahmouz, Leïla Slimani, Isabelle Carré, Virginie Grimaldi, Oratica, Marlène Chappa,
Rosine Bachelot,
voilà, Perla Servan-Schreiber,
Marie Robert.
Ouais, qui sont des philosophes que j'adore. Mm-hmm. Voilà. Enfin, il y en a 125, quoi. Il y a des personnes de la société civile, il y a les créatrices de la marque Bache, les créatrices de la marque Rive Droite, les créatrices de la marque June. Il y a Mercedes Serra, qui est la fondatrice et dirigeante de l'agence BETC, qui est la principale agence de publicité européenne.
Enfin, vous connaissez ces gens ou leur...
Non. Moi, j'ai passé 10 ans enfermée. Alors, Mahmouz, elle est là, elle rigole. Elle fait partie... Le premier déjeuner que j'ai fait entre filles, après être partie, c'était avec une journaliste que j'avais rencontrée pour mes romans, qui connaissait Mahmouz, et on a fait ce déjeuner à trois. Ça a été le premier. Voilà.
Mais vous dites que vous avez été enfermée pendant 10 ans, mais vous avez le droit d'aller faire les courses, mais juste ça, quoi.
J'avais le droit d'aller au travail, mais pas de faire des déplacements professionnels. Je devais dire quel travail je faisais, et avec qui j'allais être, etc. Je devais être dans des salles de réunion où j'étais joignable et partir à n'importe quel moment s'il m'appelait pour lui répondre.
Et personne n'a rien vu autour ?
Si, bien sûr. Mais
et personne n'a rien osé dire ?
Si, enfin, une fois, deux fois, et puis un jour, ma mère, elle s'est rendue compte que si elle continuait à dire, elle n'allait plus me voir.
Donc, les copines ?
Les copines, y en a beaucoup qui se sont éloignées parce que c'est pas qu'elles voyaient pas, c'est qu'à un moment donné, chacun a sa vie. qu'à un moment donné, moi, mes copines, elles sont mariées, elles ont eu un enfant, deux enfants, trois enfants, et puis mes petits problèmes d'assurance et de confiance en moi, ben, elles ne pouvaient pas s'en occuper totalement, quoi.
C'était... Oui, c'est pas faux.
Mais
pas...
je reprochais à personne, d'ailleurs, c'est toujours mes amis. Mais je comprends qu'à un moment donné, voilà, il faut avoir conscience que ce n'est pas facile, il faut se préparer à partir.
Non, et puis la peur, c'est très compliqué à gérer.
Tout à fait. Et la peur, elle est perverse parce qu'on a peur de ce qu'on vit, mais on a encore plus peur de l'inconnu et de la solitude si on s'en va. Moi, je sais que pendant des années, ce qui me terrorisait, c'était d'être sans lui. J'avais peur d'être avec lui, mais j'avais peur d'être sans lui.
Et vous imaginez celles qui ont peur d'être sans lui et en plus sans une thune pour vivre, survivre, faire becter le petit et tout
Hein. Moi, j'aurais pas eu. Mais je comprends que les femmes reviennent. Parce que ce qu'on se prend dans la gueule quand on part, c'est dur. C'est violent. L'administration, c'est violent. De partir, si moi, je n'avais pas eu mes parents, qu'est-ce que j'aurais fait? Où est-ce que j'aurais dormi? Même si j'avais les moyens, il faut le trouver, l'appartement. Faut,
Je vous aurais trouvé une chambre, mais bon, on ne se connaissait pas. Une chambre d'amis. Évidemment.
Bien entendu.
C'est rare d'avoir vécu un drame pareil et d'avoir un sourire pareil. C'est ça que je trouve formidable. On dirait que vous, d'abord, vous êtes suivi, vous l'avez dit. C'est tout un travail qui doit être absolument crevant en plus. Parce que...
Vous savez ce que je dis toujours, j'ai l'impression qu'on m'a volé 10 ans de ma vie.
Bah oui.
Et j'ai plus une minute à donner à la tristesse et au fait de se morfondre. Voilà. Moi, il y a 10 ans que je récupérerai à jamais. J'ai eu la chance de quand même avoir une petite fille, il n'y a pas eu que du noir, mais aujourd'hui j'ai plus la place pour le noir.
Ce bouquin s'appelle 125 et des milliers, c'est un ouvrage collectif qui a été pensé et conçu par ma voisine d'en face là, qui s'appelle Sarah Baruch, B-A-R-U-K-H. Ce bouquin chez Harper & Collins, c'est formidable. Les bénéfices sont versés à l'Union Nationale des Familles de Féminicides parce qu'elles ont besoin d'argent.
Alors oui, alors déjà, je voulais que ce soit une action qui est entre une association...
C'est-à-dire que tous ces mois, vous les avez faits de manière, entre guillemets, humanitaire.
Ah ben moi, j'ai touché une avance de, en tout et pour tout, 4000 euros sur 2 ans, pour être transparent.
C'est pas gigantesque.
Voilà. C'est pas méga...
Non, c'est pas méga... Et pas m'acheter une voiture avec ça.
Non, 4000 divisé par 24, c'est pas génial. Les bénéfices sont reversés parce que je voulais que ce soit une association qui est entre guillemets les mains dans le cambouis. Voilà, c'est des femmes, elles ont toutes été concernées par un féminicide. C'est-à-dire que la fondatrice, sa sœur a été brûlée vive devant sa nièce. Et toutes les autres ont vécu ça, soit leur sœur, soit leur cousine. Et elles se sont pris tant de violences administratives en tant que famille de féminicide, qu'elles se sont dit il va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus.
Quel est le premier réflexe si une femme nous écoute qu'elle est dans une situation compliquée? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse?
Le premier réflexe, c'est déjà, on dit toujours aux femmes fuyez, mais c'est au moment où elles s'enfuient qu'elles se font tuer. Donc moi, ce que je dis, fuyez, mais surtout préparez votre fuite. Une fuite en sécurité, ça implique de préparer à l'avance tous les papiers dont on aura besoin après. Ça implique de préparer à l'avance, si vous avez des enfants, de partir avec ce qui leur est essentiel. Moi, par exemple, j'ai Nathalie qui s'est fait tuer parce que sa fille avait oublié un cahier.
Donc elle s'est retournée.
Donc elle est retournée à l'appartement et elle s'est fait tuer à ce moment-là. Donc je vous laisse imaginer la culpabilité de la petite fille aussi, etc. Donc il faut partir dans l'idée que vous ne reviendrez plus. Jamais. Solveig, qui est morte le 14 juin dernier, elle est revenue parce qu'elle avait acheté son appartement et qu'elle est revenue faire l'état des lieux pour le vendre. Et qu'il était là et qu'il l'attendait et qu'il l'a tué devant son petit bébé. Donc, il faut se dire que voilà, prenez le temps, si vous n'êtes pas en danger de mort immédiat, bien entendu, de faire le point sur tout ce dont vous aurez besoin, comme si vous alliez sur une île déserte. Qu'est-ce que vous emportez avec vous?
C'est important, si ça peut servir au moins, ne serait-ce qu'à une personne, de se sauver la vie et la sienne et celle de son enfant. Combien ont d'enfants dans ces histoires? La plupart sont mamans?
Oui. Ouais. La plupart sont mamans. Alors, ça tourne autour de 130 orphelins. J'ai pas le chiffre exact, mais il y en a beaucoup.
Non, parce que eux, leur vie va pas être la même, hein, forcément. Entre un papa en prison et une maman morte.
Leur vie, c'est terrible. Alors moi, j'ai des phrases qui m'ont déchiré le cœur de personnes qui ont recueilli les victimes et qui me disaient, mais en fait, je suis face à un petit garçon qui n'ose même plus se mettre en colère. Parce qu'à chaque fois qu'à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, c'est normal d'être en colère, et ben, il se dit « Ah, mais alors, ça veut dire que j'ai la même maladie que papa. »
Oui, non, mais c'est terrible. Je conseille vraiment ce bouquin, 125 et des milliers. Merci, Sarah. Je suis très content de vous avoir rencontré.
Merci à vous.
Continuez à aller bien, parce que c'est très contagieux.
Ah bah.
Donc, revenez quand vous voulez, en fait.
C'est la première fois qu'on me dit ça.
Revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
À très vite. encore moins bon. Et je chante même. De Savage à ce copain. Des copains. De Savage à ce copain.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.